divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Patrick Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat à Paris. Vous êtes aussi pénaliste en droit international, inscrit au barreau de la Cour pénale internationale de La Haye. Vous avez présidé la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, ce qui vous a fait beaucoup partir en mission dans différents pays du monde. Et depuis 2022, vous présidez la Ligue des droits de l'homme. C'est à ce titre que je vous invite en ce dimanche pentecostal à l'antenne de l'Union rationaliste parce que depuis le début du mois d'avril, la Ligue, association vénérable créée au moment de l'affaire Dreyfus, subit une offensive en règle de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron, non seulement dans les propos menaçants du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prononcés au Sénat. Je le cite, « Je ne connais pas la subvention donnée par l'État, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées. » Propos menaçants et indignes, mais également dans ceux de la Première ministre, Elisabeth Borne, comme dans ceux de médias hostiles au travail de la Ligue des droits de l'homme. Je pense à l'article de Guillaume Perrault dans le Figaro du 18 avril. Alors, ma première question, Patrick Baudouin, est conjoncturelle. Comment interprétez-vous cette offensive ? Est-elle liée au travail d'observation et de documentation des pratiques policières que fait la Ligue, comme à Sainte-Soline le 25 mars dernier ou dans les manifestations contre la réforme des retraites ? Est-ce que cela suffit à expliquer cette violence ?
Je pense que l'élément effectivement déclencheur des propos tenus d'abord par Monsieur Darmanin est effectivement l'engagement de la Ligue, de la LDH, dans les semaines précédentes par rapport à nouveau à la survenance de ce qu'on peut appeler des violences policières. Les premières manifestations liées à la contestation de la réforme sur les retraites s'étaient déroulées dans le calme et dans des conditions acceptables au niveau du maintien de l'ordre. Puis, à compter du 16 mars 2023, date d'adoption à marche forcée, on va dire, de la loi sur les retraites avec utilisation du 49.3, il y a eu des manifestations plus difficiles, c'est vrai, mais à l'occasion desquelles, à nouveau, comme au moment de la crise des Gilets jaunes, les forces de l'ordre ont eu recours à des méthodes que nous avons désapprouvées. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Hein. Nous sommes en bonne compagnie, même, je dirais, puisque la Défenseure des droits, par exemple, dit exactement la même chose que nous. Alors, ça veut dire qu'on a contesté des interpellations abusives, des gardes à vue qui ne servent à rien, puisque les personnes sont relâchées très rapidement, mais empêchées, bien sûr, de manifester. Le recours à la BRAVEM, c'est-à-dire ces policiers en moto qui se comportent quand même assez largement comme au Far West, mais surtout qui créent la tension et la violence. Et puis, l'utilisation de la NAS. Alors, la NAS illégale, j'insiste, c'est-à-dire une NAS qui vise à enfermer dans une sorte de cercle les manifestants et pour une durée relativement importante, sans possibilité de sortie. Et puis, bien sûr, le recours à ce qu'on appelle des armes de guerre, c'est-à-dire les LBD, les lanceurs de balles de défense, ou encore les grenades de type dangereux, qui sont les GM2L, qui sont des grenades, on peut dire, un peu à fragmentation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement assourdissantes ou aveuglantes, elles sont aussi susceptibles de blesser les corps. Donc nous avons dénoncé tout ça. À Sainte-Soline, nous avons récidivé, si je puis dire, dans la dénonciation des violences policières, sans sous-estimer, bien sûr, j'insiste toujours là-dessus, sur la violence commise par certains manifestants, les Black Blocs, qui sont quand même très minoritaires dans la manifestation, très violents, évidemment, c'est de la délinquance et on n'a pas de difficulté là-dessus à dire qu'il faut réprimer la délinquance. Mais en revanche, les forces de l'ordre, là aussi, ont utilisé des moyens totalement disproportionnés et surtout indiscriminés, c'est-à-dire visant des manifestants qui, eux, étaient parfaitement pacifistes et dont beaucoup ont été blessés. Et alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'effectivement, nous avions une équipe d'observateurs qui a constaté qu'il y avait eu du retard à porter et, semble-t-il, sur ordre du commandement de la zone, retard apporté à secourir deux blessés qui étaient entre la vie et la mort dans un état très grave. Alors c'est à partir de là, effectivement, que M. Darmanin, quelque peu mis en difficulté par nos témoignages, parce qu'il avait contesté la véracité de ce que disait la Ligue, mais nous avions tout de même un enregistrement audio qui tendait à prouver que nous ne racontions pas d'histoire, si je puis dire. À la suite de cela, eh bien, il y a eu cette déclaration tout à fait inacceptable, assez indigne, je trouve, de la part de M. Darmanin, consistant à dire que nos finances devaient être surveillées, nos subventions, ce qui est parfaitement normal, contrôlées, elles le sont. C'est bien normal, quand on reçoit de l'argent public, il est plus que légitime que cela soit surveillé, ça l'est par la Cour des comptes, on a des finances totalement transparentes, j'ai vraiment pas de souci là-dessus. Mais en revanche, c'est l'autre partie de la phrase qui est plus que discutable, puisque c'est, dit M. Darmanin, une surveillance qui sera faite dans le cadre des actions qu'elle a pu mener. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une menace voilée de diminution ou suppression de nos subventions, puisqu'on nous dit, semble-t-il, si on comprend bien le français, que si nos actions ne plaisent pas au pouvoir, ben, le pouvoir ne nous donnera plus d'argent, et que si en revanche nous sommes des bénis, oui, de l'action du gouvernement, évidemment, nous serons rémunérés. Il va de soi que la Ligue est un contre-pouvoir, je le rappelle, qui fait partie du jeu démocratique, comme beaucoup d'autres associations, qui, comme nous, militent en faveur des droits et libertés, et que c'est parfaitement inacceptable d'avoir cette vision.
Plus fondamentalement, pensez-vous que ce régime opère des dérives semblables à ceux des régimes illibéraux? Et peut-être, question pour l'ancien étudiant de Sciences Po que vous êtes, pourriez-vous nous éclairer sur les limites entre illibéralisme, autoritarisme et dictature?
Oui, alors je vais commencer par la première partie de la question. Effectivement, bon, le fait de supprimer des subventions nous renvoie à des régimes du type, je dis bien du type, de celui par exemple de M. Orban en Hongrie, de M. Erdogan, de M. Netanyahou vis-à-vis des associations aussi en Israël et de beaucoup d'autres pays. Et évidemment, c'est une atteinte à la liberté associative. Parce que les associations, bon, qui font partie de la société civile, on va dire, ne peuvent pas vivre, pour la plupart d'entre elles, sans subvention. Alors aujourd'hui, on ne nous a pas supprimé les subventions. Je dis bien, c'est une menace voilée. Bon, j'espère encore, est-ce que je suis naïf ou trop optimiste, que ça ne sera pas le cas. Et qu'il y aura tout de même une prise de conscience qu'on est allé trop loin du côté de la parole gouvernementale. Mais si cela était le cas, effectivement, on passerait vraiment dans un régime illibéral. C'est-à-dire le fait qu'on ne supporte que les associations qui vont à peu près dans le sens, ou en tout cas qui ne gênent pas. Parce que sans subvention, beaucoup de ces associations disparaissent. Donc c'est une atteinte très directe à la liberté associative et qui fait suite, j'ouvre quand même cette petite parenthèse, à une loi séparatisme qui a été adoptée le 9 août 2021 et qui a été suivie de ce qu'on appelle le décret sur le contrat d'engagement républicain. Pour résumer, c'est un décret qui fait obligation aux associations, si elles veulent demander des subventions, de souscrire ce contrat, qui n'en est pas un, parce qu'un contrat, normalement, ça se discute, c'est imposé. Et ce contrat comporte des 7 engagements, dont l'un est extrêmement pernicieux, puisqu'il fait obligation, en réalité, de n'avoir pas d'action ou de n'avoir pas de prise de position, de nature politique, religieuse et autres, susceptibles de porter d'une manière ou d'une autre atteinte à l'ordre public. Mmh. Alors, quand on utilise, les juristes le savent, cette référence à l'ordre public, avec la marge d'appréciation très grande qui en résulte pour les gouvernants, y compris d'ailleurs pour la justice ensuite, on sait qu'on dérive vers quelque chose qui n'est plus tout à fait une démocratie pure et dure. Alors, l'autre partie de la question que vous posez, c'est où en est-on ? Moi, je dirais que si on allait à ce stade, et on s'en approche, on va vers un régime illibéral, c'est-à-dire un régime qui a encore les apparences de la démocratie, avec un parlement, des élections, un jeu qui peut être sur certaines parties assez libre, mais qui, d'un autre côté, commence à limiter les droits et libertés, par exemple, dans le domaine de la presse, avec un contrôle de la presse, en particulier la presse télévisuelle, le contrôle de la justice, c'est-à-dire le souci qu'il n'y ait plus trop ou plus du tout de magistrats indépendants, et puis des atteintes à la société civile, c'est-à-dire tout ce qui peut être contre-pouvoir pour parvenir à une uniformité dans la société qui vise à faire taire les voix les plus dissidentes. On va vers le régime illibéral. Alors la différence avec le régime autoritaire, elle est relativement faible à la limite, sauf qu'un régime autoritaire peut ne plus comporter du tout l'aspect libéral. Illibéral, il y a encore le mot libéral. Autoritaire, ça peut vouloir dire là qu'on bâillonne complètement les possibilités d'exercice, par exemple, de la vie parlementaire. Je vais citer un cas récent, qui est le cas de la Tunisie, avec le président Raïs Saïd, qui là a complètement annihilé et les pouvoirs et les possibilités de contestation de la part du Parlement, par exemple. Donc là, on arrive vraiment à un régime autoritaire, par exemple. Alors, enfin, le stade ultime, c'est la dictature, qui là aussi peut être une dictature plus ou moins violente, les dictatures sanguinaires ou les dictatures où toute voix est bâillonnée et menace non seulement là de privation de subvention, mais de poursuites judiciaires, d'emprisonnement, voire de torture. Bon, ce qu'on voit hélas dans beaucoup de pays, malheureusement, de la planète.
Je voudrais que vous nous fassiez part des craintes que vous avez émises et qui me semblent légitimes sur la loi dite « Jeux olympiques ».
Oui, alors la loi « Jeux olympiques », elle s'inscrit justement dans les craintes que nous avons au niveau des droits et libertés. Et dans le cadre aussi, il faut le dire simplement, on pourrait développer, mais on n'a pas le temps, de toutes les lois antiterroristes. Je pense que le ver est dans le fruit principalement depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Ça constituait vraiment un point de bascule. Et depuis lors, on a multiplié d'abord les lois antiterroristes, les lois sécuritaires, qui portent atteinte à des libertés au nom de la lutte contre le terrorisme, mais qui en réalité se répercutent dans la vie des citoyens et dans ce qu'on appelle le droit commun. Et la loi Jeux Olympiques, elle est de ce type, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'elle est présentée comme une loi relativement provisoire, d'où le titre loi Jeux Olympiques, c'est-à-dire s'appliquant à la période des Jeux Olympiques. Et en réalité, on sait qu'il n'en sera rien, car quand vous avez une loi dite provisoire pour une période déterminée ou pour un objet déterminé, par capillarité, elle va s'étendre dans le temps et dans l'espace et à d'autres objets. Alors, qu'est-ce que, par exemple, dans cette loi va figurer ce qu'on appelle une surveillance, une visio-surveillance algorithmique, à partir donc d'algorithmes. Et c'est tout de même extrêmement dangereux par rapport à la vie privée. On instaure les scanners corporels. On prévoit des tests ADN multipliés, l'usage de drones, des sanctions pénales qui peuvent être aggravées pendant cette période. Donc c'est à nouveau une loi à caractère assez répressif, sécuritaire, excessive dans les mesures prises, dangereuse donc pour la liberté individuelle, notamment en termes de surveillance, et qui risque de s'éterniser par la suite.
À quelque chose, malheur est bon, cette offensive à laquelle nous avons assisté contre la Ligue des droits de l'homme vous a fait venir de nombreux nouveaux adhérents et vous avez rencontré un soutien non unanime mais tout à fait considérable. Alors, ma Dernière question est la suivante. Comment renforcer les corps intermédiaires dans un pays où l'exécutif les détruit?
Oui, c'est une belle question, une question difficile, mais une question essentielle. Vous avez raison de dire que finalement, il y a un aspect positif et un aspect négatif en ce qui concerne les attaques extrêmement violente et vraiment injustifiée contre la Ligue des droits de l'homme. Le côté négatif, c'est qu'on se serait quand même dispensé de ces amalgames, de ces invectives. On est allé vraiment chercher très loin. On dit souvent que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Mais il y a un peu de ça, on ressent ça. D'un autre côté, bon, la caravane passe quand le chien aboie aussi. Donc on peut, c'est un autre dicton qu'on reprend volontiers aussi. Comment aider la Ligue? Alors, elle est déjà aidée par de très très nombreuses adhésions. On a eu en très peu de temps 3000 nouveaux adhérents. On a eu donc les cotisations qui vont avec, on a eu des dons, et puis on a eu très largement quand même un soutien absolument formidable, émanant de personnalités très diverses, y compris sur l'échiquier politique. Et puis on a eu, à l'inverse, des critiques, je le disais, vives, venant d'un camp tout à fait attendu, c'est-à-dire le camp de l'extrême droite ou de la droite extrême, parfois un peu plus inattendu, il faut le dire, de la part de parlementaires ou autres du camp même macroniste, mais c'est marginal. Alors comment renforcer? Moi, ce que je vois quand même qui peut nous rendre optimistes dans la période récente, c'est les syndicats. C'est-à-dire le fait que les syndicats sont restés unis à travers l'intersyndicale pendant toute la période des manifestations sur les retraites.
Absolument.
Et puis je vois qu'il y a un grand, et je terminerai par là, un grand mouvement associatif dans l'ensemble de résistance qui est en train de s'organiser, qui va s'amplifier et j'espère qu'il va prospérer pour rétablir ce nécessaire équilibre démocratique dans notre pays.
Patrick Baudouin, je vous remercie. Je renvoie les auditeurs de France Culture au site de l'Union Rationaliste où ils peuvent retrouver l'éditorial du 11 avril signé par Michel Leduc, soutien inconditionnel de l'Union Rationaliste à la Ligue des droits de l'homme, non aux violences policières disproportionnées lors des manifestations. Je renvoie aussi à nos publications, les cahiers rationalistes et le dernier numéro de Raison Présente, le numéro 225, intitulé « Scientifique et armement ». Le 13 juin 2023, dans le cadre des cartes blanches de l'Union rationaliste à l'Institut d'astrophysique de Paris, Daniel Kunt recevra Anne-Cécile Melfer et Michel Perrault. Je remercie sur France Culture Luc-Jean Reynaud et Marie-Claire Oumabadi et à l'Union Rationaliste Roland Lemoine. Je vous dis au mois prochain.